Point de lendemain. Une pièce présentée par le Théâtre de l'Oreille, d'après une nouvelle de Dominique Vivant Denon, adaptée pour la radio par Marco Poli. Mise en onde de Marco Poli.
J'aimais éperdument la comtesse Juliette de Gérande. J'avais 20 ans et j'étais ingénu. Elle me trompa, je me fâchais, elle me quitta. J'étais ingénu, je la regrettais, j'avais 20 ans, elle me pardonna. Et comme j'avais 20 ans, que j'étais ingénu, toujours trompé mais plus quitté, je me croyais l'amant le mieux aimé, donc le plus heureux des hommes. Elle était amie avec Mathilde Lisieux qui semblait avoir quelques projets sur ma personne. Comme on le verra, Mathilde avait des principes de décence auxquels elle était scrupuleusement attachée. Un jour, que j'allais attendre la comtesse dans sa loge, je m'entends appeler de la loge voisine. N'était-ce pas justement la prude Mathilde Lisieux ?
Quoi ? Seule ? Déjà ? Quel abandon ! Venez donc près de moi. Il faut que je vous sauve du ridicule d'une pareille solitude. Puisque vous voilà, il faut... Oui, l'idée est excellente. Il semble qu'une main divine vous ait conduite ici. Auriez-vous par hasard des projets pour ce soir ? Il serait vain, je vous en avertis. Point de question, point de résistance. J'appelle mes gens. Vous êtes charmant.
Madame.
Allez chez monsieur, avertissez qu'il ne rentrera pas ce soir.
Madame, je...
Chut ! Écoutez. Donnez-moi la main, jeune homme, et conduisez-moi à ma voiture.
Madame, je...
Patience, mon jeune ami, patience. Tout vient à point, à qui sait attendre?
Chaque fois que je hasardais une question, on répondait par un éclat de rire. Si je n'avais bien su que son cœur était déjà engagé, j'aurais été tenté de me croire en bonne fortune. Elle connaissait la situation de mon cœur, car la comtesse de Gérande était, comme je l'ai déjà dit, son amie intime. Je m'interdis donc toute idée présomptueuse et j'attendis les événements. Cependant, le voyage se prolongeait. Cela commençait à me paraître plus sérieux. Je hasardais avec plus d'insistance. Mais enfin, madame, jusqu'où me mènera cette plaisanterie ?
Elle vous mènera dans un très beau séjour. Mais devinez où ? Oh, je vous le donne en mille ! Chez mon mari. Le connaissez-vous ?
Pas du tout.
Je crois que vous en serez content. On nous réconcilie. Il y a 6 mois que cela se négocie et il y en a un que nous nous écrivons. Il est, je pense, assez opportun d'aller le trouver.
Oui, mais s'il vous plaît, que ferais-je là, moi ?
Ce sont mes affaires. Je crains l'ennui d'un tête-à-tête. Vous êtes aimable et je suis bien aise de vous avoir.
Prendre le jour d'un raccommodement pour me présenter, cela me paraît bizarre. Vous me feriez croire que je suis sans conséquence. Ajoutez à cela l'air d'embarras qu'on apporte à une première entrevue. En vérité... Je ne vois là rien de plaisant pour tous les trois.
Ah, point de morale, je vous en conjure. Il faut m'amuser, me distraire et non me prêcher.
Je l'avais si décidé que je pris le parti de l'être autant qu'elle. Je me mis à rire de mon personnage et nous devînmes très gais. Nous avions changé une seconde fois de chevaux. Nous approchions du lieu où allait finir le tête-à-tête. On me faisait admirer la beauté du paysage.
Mon doux ami, admirez donc le calme de la nuit, le silence touchant de la nature.
Pour admirer ensemble, nous nous penchions à la même portière. Le mouvement de la voiture faisait que le visage de Mathilde et le mien s'entretouchaient. Dans un choc imprévu, elle me serra la main et moi, par le plus grand hasard du monde, je la retins entre mes bras. Je ne sais ce que nous cherchions à voir. Ce qu'il y a de sûr,
c'est que je m'apprêtais à rapprocher mes limbres lorsqu'on se débarrassa de moi brusquement et qu'on se rejeta au fond du carrosse.
Votre projet serait-il de me convaincre de l'imprudence de ma démarche ?
Du projet ? Avec vous, quel Dupré ! Vous les verriez venir de trop loin. Mais un hasard, une surprise, cela se pardonne.
Vous avez compté là-dessus, à ce qu'il me semble.
Nous en étions là alors que nous entrions dans la cour du château. Tout était éclairé, tout annonçait la joie, excepté la figure du maître, rétive. Et il n'affichait que le glacial besoin d'une réconciliation pour des raisons de famille. La bienséance amène Mathilde à me présenter, il offre la main, et nous parcourons des salons décorés avec autant de goût que de magnificence. Ne sachant que dire, je me sauvai par l'admiration. Mathilde s'empresse de faire les honneurs du temps.
Vous n'avez encore rien vu. Il faut que je vous mène à l'appartement de monsieur.
Madame, il y a 5 ans que je l'ai fait démolir. Je vous sais, madame, de la précaution que vous avez eue d'amener monsieur. Vous avez jugé que je ne serais pas de bonne compagnie pour la veiller et vous avez bien jugé. Permettez-moi de me retirer. Monsieur voudra bien m'excuser.
Bien, allons faire un tour sur la terrasse. La nuit est superbe.
Le château ainsi que les jardins descendaient en terrasse jusque sur les rives de la Seine. On s'était remis de l'espèce de persiflage qu'on venait d'essuyer et tout en se promenant, on me fit quelques confidences. Et les confidences s'attirant, j'en faisais à mon tour qui devenaient toujours plus intimes. Il y avait longtemps que nous marchions. Elle m'avait d'abord donné son bras, ensuite ce bras s'était entrelacé je ne sais comment, tandis que le mien la soulevait et l'empêcha de presque poser à terre. L'attitude était agréable, quoique fatigante à la longue. Un banc de gazon se présente, on s'y assied. Ce fut dans cette position que nous commençâmes à faire l'éloge de la confiance, de son charme, de ses douceurs. Oui, la confiance.
Et qui peut en jouir mieux que nous avec moins de crainte? Je sais trop combien vous tenez au lien que je vous connais pour n'avoir rien à redouter auprès de vous.
J'appréhendais que ma présence solitaire dans la loge n'eût effrayé votre esprit.
Je ne m'alarme pas si aisément.
Je crains cependant qu'elle ne vous ait laissé quelques nuages.
Que faut-il pour vous rassurer?
Vous ne devinez pas?
Je souhaite d'être éclaircie. Et pour cela, il faudrait...
Que vous m'accordiez ici ce baiser que le hasard...
Je le veux bien. Vous seriez trop fière si je le refusais. Votre amour-propre vous ferait croire que je vous crains.
Il en est des baisers comme des confidences. Ils s'attirent, s'accélèrent, s'échauffent les uns par les autres. Le premier ne fut pas plus tôt donné qu'un second le suivit, puis un autre. Ils se pressaient, entrecoupaient la conversation, la remplaçaient. À peine enfin laissait-il au soupir la liberté de s'échapper. Ah. Le silence survint, il effraya. Nous nous levâmes sans mot dire et... commençâmes à marcher.
Il faut rentrer. L'air du soir ne nous vaut rien.
Je le crois moins dangereux pour vous.
Oui, je suis moins exposée qu'une autre, mais qu'importe. Rentrons.
C'est par égard pour moi, sans doute. Vous voulez me défendre contre le danger des impressions d'une telle promenade et des suites qu'elle pourrait avoir pour moi?
C'est donner bien de la délicatesse à mes motifs. Allons, rentrons, je l'exige.
« Je ne sais, je ne savais du moins, si ce parti était une violence qu'elle se faisait, si c'était une résolution bien décidée, ou si elle partageait le chagrin que j'avais de voir terminer ainsi une scène si bien commencée. Mais par un mutuel instinct, nos pas se ralentissaient, nous cheminions tristement, mécontents l'un de l'autre et de nous-mêmes. Nous n'étions ni l'un ni l'autre en droit de rien exiger, de rien demander. Cependant, nous approchions, occupés en silence de nous soustraire au devoir que nous nous étions imposés si maladroitement. Nous touchions à la porte lorsqu'enfin Mathilde parla.
Je suis peu contente de vous. Après la confiance que je vous ai montrée, il est mal, si mal, de ne m'en accorder aucune. Voyez si depuis que nous sommes ensemble, vous m'avez dit un mot de la comtesse. Il est pourtant si doux de parler de ce qu'on aime. Et vous ne pouvez douter que je ne vous aurais écouté avec intérêt.
N'ai-je pas le même reproche à vous faire ? Et n'auriez-vous point paré à bien des choses si, au lieu de me rendre confident d'une réconciliation avec un mari, vous m'aviez parlé d'un choix plus convenable, d'un choix...
Je vous arrête. Pour peu que vous connaissiez les femmes, vous savez qu'il faut les attendre sur les confidences. Revenons à vous. Où en êtes-vous avec mon ami ? Vous rend-on bien heureux ? Ah, je crains le contraire. Cela m'afflige car je m'intéresse si tendrement à vous. Oui, monsieur, je m'y intéresse. Plus que vous ne pensiez peut-être.
Eh, pourquoi donc, madame, vouloir croire avec le public ce qu'il s'amuse à grossir ?
Épargnez-vous la feinte, je sais sur votre compte tout ce que l'on peut savoir. La comtesse est moins mystérieuse que vous. Les femmes de son espèce sont prodigues des secrets de leurs adorateurs. Parlez-moi franchement. N'êtes-vous pas souvent la victime de cet étrange caractère ? Parlez. Parlez.
Mais, madame, vous voulez rentrer. Et l'air...
Il a changé.
Elle avait repris mon bras et nous recommencions à marcher. Ce qu'elle venait de me dire de la maîtresse qu'elle me savait, des amants que je lui connaissais, ce voyage, la scène du carrosse, celle du banc du gazon, l'heure, tout cela me troublait. J'étais tour à tour emporté par l'amour-propre ou le désir et ramené par la réflexion. Tandis que j'étais en proie à des mouvements si confus, elle avait continué de parler et toujours de la comtesse. Mon silence paraissait confirmer tout ce qui lui plaisait d'en dire. Quelques traits qui lui échappèrent me firent pourtant revenir à moi.
Comme elle est fine, qu'elle a de grâce. Une perfidie dans sa bouche prend l'air d'une saillie. Une infidélité paraît un sacrifice à la décence. Point d'abandon, toujours aimable, rarement tendre, et jamais vrai. Galante par caractère, prude par système, vive, prudente, adroite, étourdie, sensible, savante, coquette et philosophe. Elle attire, elle échappe. Combien je lui ai vu jouer de rôles, entre nous, que de dupes l'environnent. Comme elle s'est moquée du baron, que de tours elle a fait au marquis. Lorsqu'elle vous prit, c'était pour distraire deux rivaux trop imprudents et qui étaient sur le point de faire un éclat. Elle les avait trop ménagés. Alors, elle vous a mis en scène, vous désespéra, vous plaignit, vous consola, et vous fûtes contents tous quatre. Ah, qu'une femme adroite a d'empire sur vous, et qu'elle est heureuse lorsqu'à ce jeu-là, elle affecte tout et n'y met rien du sien.
C'était un coup de maître. Je sentis qu'on venait de m'ôter un bandeau de devant les yeux et ne vis point celui qu'on y mettait. Mon amante me parut la plus fausse de toutes les femmes et je crus tenir l'être sensible. Je soupirai. On parut fâché de m'avoir affligé et de s'être laissé emporter trop loin dans une peinture qui pouvait paraître suspecte, étant faite par une femme. Je ne comprenais rien à tout ce que j'entendais lorsque, au milieu de nos raisonnements, on me fit apercevoir au bout d'une terrasse un pavillon qui avait été naguère le témoin des plus doux moments. Tout en causant, nous en approchions.
quel dommage de n'en avoir point la clé. Ah, mais il est ouvert. Il ne lui manque plus que la clarté du jour. Mais l'obscurité a aussi son charme.
Nous frémîmes en entrant. C'était un sanctuaire, celui de l'amour. Il s'empara de nous. Nos genoux fléchirent, nos bras défaillants s'enlacèrent et ne pouvant nous soutenir, nous allâmes tomber sur un canapé qui occupait une partie du temple. La lune se couchait et le dernier de ses rayons emporta bientôt le voile d'une pudeur qui devenait importune. Tout se confondit dans les ténèbres.
Ah non, non. Non, non, non.
La main qui voulait me repousser sentait battre mon cœur. On voulait me fuir. On retombait plus attendri. Nos âmes se rencontraient, se multipliaient. Maltil se réfugiait dans mes bras, cachait sa tête dans mon sein, soupirait et se calmait à mes caresses. Elle s'affligeait, se consolait et demandait de l'amour pour tout ce que l'amour venait de lui ravir. Et on se hâta d'obtenir une seconde victoire pour s'assurer de sa conquête.
Ah, sortons de ce dangereux séjour. Sans cesse, les désirs s'y reproduisent et l'on est sans force pour leur résister. Tu l'as consacré pour moi. Oh, comme tu sais aimer. Mon âme est si pleine de mon bonheur qu'à peine puis-je me rappeler d'avoir pu vous résister. Quel espace immense entre ce lieu-ci et le pavillon que nous venons de quitter.
Eh bien, verrai-je se dissiper ici le charme dont mon imagination s'était remplie là-bas? Je suis aussi malheureux dans celui-ci que je viens d'être heureux dans l'autre. L'amour veut des gages multipliés, il croit n'avoir rien obtenu tant qu'il lui reste à obtenir.
Encore? Oh non, je ne puis permettre, non, non, jamais. Mais tu m'aimes donc bien. Ah, quelle nuit délicieuse nous venons de passer par là très seul de ce plaisir. Ah, la belle nuit, les beaux lieux. Il y a 8 ans que je les avais quittés. Mais ils n'ont rien perdu de leur charme. Ils viennent de reprendre pour moi tous ceux de la nouveauté. Nous n'oublierons jamais ce cabinet. Le château en recèle un plus charmant encore. Mais on ne peut rien vous montrer. Vous êtes comme un enfant qui veut toucher à tout et qui brise tout ce qu'il touche. Je suis fâchée, vraiment fâchée de ce que je vous ai dit de la comtesse. Ce n'est pas que je veuille me plaindre de vous. La nouveauté pique. Vous m'avez trouvée aimable et j'aime à croire que vous étiez de bonne foi. Mais que pourriez-vous espérer maintenant près de moi? Que pourriez-vous désirer? Et que devient-on avec une femme sans espérance? Je vous ai tout prodigué. À propos, dites-moi, comment avez-vous trouvé mon mari? Assez maussade? Il faudra ne pas prolonger ce premier voyage. Notre amitié lui deviendrait suspecte. Il prendrait de l'humeur. Il était plus gai lorsqu'il fit arranger avec tant de recherche le cabinet dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était avant mon mariage.
Il tient donc à votre appartement? Quel plaisir d'y venger vos attraits offensés. Ah, si j'étais choisi pour être le héros de cette vengeance.
Si vous me promettiez d'être sage.
Il faut l'avouer, je ne me sentais pas toute la ferveur, toute la dévotion qu'il fallait pour visiter ce nouveau temple. Mais j'avais beaucoup de curiosité. Ce n'était plus Mathilde de Lisieux que je désirais, c'était le cabinet. Nous étions rentrés. Les lampes des escaliers et des corridors étaient éteintes. Nous errions dans un dédale. Enfin, nous arrivâmes à la porte de son appartement, de cet appartement qui renfermait ce réduit tant vanté. Qu'allez-vous faire de moi? Me renverrez-vous seul dans l'obscurité?
Vous me promettez donc d'être sage?
Tout au monde. On reçut mon serment. Nous ouvrîmes doucement la porte. Nous trouvâmes deux femmes endormies, l'une jeune, l'autre plus âgée, la confidente. On les réveilla. Bientôt, je les vus sortir par une porte secrète, artistement fabriquée dans un lambris de la boiserie. Je trouvais Mathilde plus belle que jamais. Un peu de fatigue avait appesanti ses paupières et donnait à son regard une langueur plus intéressante, une expression plus douce. Des rougeurs éparses, çà et là, relevaient la blancheur de son teint. Ces traces du plaisir m'en rappelaient la jouissance. Enfin, elle me parut plus séduisante encore. Au moment d'entrer, on m'arrêta.
Souvenez-vous que vous serez censé n'avoir jamais vu, ni même soupçonné l'asile où vous allez être introduit. Point d'étourderie.
Tout cela avait l'air d'une initiation. On me fit traverser un petit corridor obscur en me conduisant par la main. Mon cœur palpitait comme avant la célébration des grands mystères. « Mais votre comtesse, me dit-elle en s'arrêtant. » J'allais répliquer. Les portes s'ouvrirent, se refermèrent, et je ne distinguais plus par où j'étais entré. Je me trouvais dans une vaste cage de miroirs. Une lueur douce et céleste pénétrait. Des cassolettes exhalaient de délicieux parfums. D'un côté, on voyait la statue de l'amour distribuant des couronnes. Devant cette statue était un autel sur lequel brillait une flamme. Vis-à-vis était une grotte sombre. Le dieu du mystère veillait à l'entrée. Le parquet débouchait sur un baldaquin soutenu par des amours. Ce fut là que la reine de ce lieu alla se jeter nonchalamment. Je tombai à ses pieds, elle se pencha vers moi, elle me tendit les bras et dans l'instant, grâce aux multiples glaces, je vis cette île toute peuplée d'amants heureux.
Et vos serments ?
J'étais un mortel quand je les fis. Vous adorez. Voilà mon seul serment.
Venez, venez.
En même temps, elle s'approcha de la grotte. À peine en avions-nous franchi l'entrée que je ne sais quel ressort adroitement ménagé nous entraîna. Portés par le même mouvement, nous tombâmes mollement renversés sur un monceau de coussins. L'obscurité régnait avec le silence dans ce nouveau sanctuaire. Nos soupirs nous tinrent lieu de langage, plus tendres, plus multipliés, plus ardents. Ils étaient les interprètes de nos sensations, ils en marquaient les degrés. Et le dernier de tous, quelque temps suspendu, nous avertit que nous devions rendre grâce à l'amour. Et soulevant à peine ses beaux yeux humides de volupté, elle me dit
« Eh bien, aimeriez-vous jamais la comtesse autant que moi ?»
J'allais répondre lorsque la confidente entra précipitamment et me dit « Sortez vite, il fait grand jour, on entend déjà du bruit dans le château !»
Tu ne m'attendais pas si matin, n'est-il pas vrai ? Eh bien, comment cela s'est-il passé ?
Tu savais donc que j'étais ici ?
Oui, vraiment. On me le fit dire hier au moment de votre départ. As-tu bien joué ton personnage ? Le mari a-t-il trouvé ton arrivée bien ridicule ? Quand te renvoie-t-on ? J'ai pourvu à tout. Je t'amène une bonne voiture qui sera à tes ordres. Il fallait un écuyer à Mathilde de Lisieux. Tu lui en as servi. Tu l'as amusée sur la route. C'est tout ce qu'elle voulait. Et ma reconnaissance...
Encore dans mon bonheur de la nuit, je réponds brièvement à la fatuité du marquis. Dupe, cocu et inconscient, sans éprouver le besoin de le détromper. Oh, Mathilde Lisieux pourrait te dire que j'y ai mis un zèle au-dessus des pouvoirs de la reconnaissance. Il venait de lever le voile sur le mystère de la veille et de me donner la clé du reste. Je me glissais instantanément dans mon nouveau rôle.
Pourquoi venir si tôt ? Il me semble qu'il eût été plus prudent.
Tout est prévu. C'est le hasard qui semble me conduire ici. Je suis censé revenir d'une campagne voisine. Mathilde ne t'a donc pas mis au fait ?
Elle avait sans doute ses raisons. Et peut-être si elle eût parlé, n'aurais-je pas si bien joué mon personnage ?
Cela, mon cher, a donc été bien plaisant. Conte-moi les détails. Conte donc.
Ah ! un moment, je ne savais pas que tout ceci était une comédie.
Tu n'avais pas le beau rôle.
Va, rassure-toi, il n'y a point de mauvais rôle pour de bons acteurs.
J'entends, tu t'en es bien tiré.
Merveilleusement.
Et Mathilde?
Elle a tous les talents sublimes.
Cela m'a donné de la peine de fixer cette femme-là. Mais j'ai amené son caractère au point que c'est peut-être la femme la plus fidèle de Paris.
Fort bien.
C'est mon talent, hein, moi. Toute son inconstance n'était que frivolité, dérèglement d'imagination. Il fallait s'emparer de cette âme-là.
C'est le bon parti.
Certes, tu n'as pas d'idée de son attachement pour moi. Au fait, elle est charmante, tu en conviendras. Entre nous, je ne lui connais qu'un défaut. C'est que la nature, en lui donnant tout, lui a refusé cette flamme divine qui met le comble à tous ses bienfaits. Elle fait tout naître, tout sentir, et elle n'éprouve rien. C'est un marbre.
Je ne puis que te croire, car moi... Mais sais-tu que tu connais cette femme-là comme si tu étais son mari? Vraiment, c'est à s'y tromper. Et si je n'avais pas soupé hier avec le véritable...
À propos, a-t-il été bien bon?
Jamais on n'a été plus mari que cela.
Oh, la bonne aventure. Mais tu n'en ris pas assez à mon gré. Tu ne sens donc pas tout le comique de ton rôle? Conviens que le théâtre du monde offre des choses bien étranges, qu'il s'y passe des scènes bien divertissantes. Rentrons, j'ai de l'impatience d'en rire avec Mathilde. Il doit faire jour chez elle. J'ai dit que j'arriverais de bonne heure. Décemment, il faudrait commencer par le mari. On t'a donc bien pris pour un amant.
Tu jugeras de mes succès par la réception qu'on va me faire. Il est 9 heures. Allons de ce pas chez monsieur. Je voulais éviter mon appartement, et pour cause. Chemin faisant, le hasard m'y amena. La porte était restée ouverte, nous laissa voir mon valet de chambre qui dormait dans un fauteuil. Une bougie expirait près de lui. En s'éveillant au bruit, il présenta étourdiment ma robe de chambre au marquis, en lui faisant quelques reproches sur l'heure à laquelle il rentrait. J'étais sur des charbons ardents. Mais le marquis était si disposé à s'abuser qu'il ne vit rien en lui qu'un étourdi. Je donnai mes ordres pour mon départ à mon homme, qui ne savait ce que tout cela voulait dire, et nous passâmes chez monsieur. On s'imagine bien qui fut accueilli. Ce ne fut pas moi. C'était dans l'ordre. On fit à mon ami les plus grandes instances pour s'arrêter. On voulut le conduire chez madame. Quant à moi, on osait me faire la même proposition. On me conseilla de regagner la ville. Le marquis m'offrit sa voiture, je l'acceptai. Tout allait à merveille et nous étions tous contents. Je voulais cependant voir encore Mathilde. C'était une jouissance que je ne pouvais me refuser. Mon impatience était partagée par mon ami, qui était bien loin de pénétrer la cause de ce long sommeil.
Cela n'est-il pas admirable, quand on lui aurait communiqué ses répliques? Aurait-il pu mieux dire? Au vrai, c'est un fort galant homme, et je suis très aise de ce raccommodement. Cela fera une bonne maison, et tu conviendras que, pour en faire les honneurs, il ne pouvait mieux choisir que sa femme. Mais mon cher Motus, le mystère devient plus essentiel que jamais. Je saurais faire entendre à Mathilde que son secret ne saurait être en de meilleures mains.
Crois-moi, elle me fait confiance et, comme tu le vois, son sommeil n'en est point troublé.
Oh, il faut convenir que tu n'as pas ton pareil pour endormir une femme.
Et un mari, mon cher. Un amant même, au besoin. On avertit enfin qu'on pouvait entrer chez Mathilde. Nous nous y rendîmes.
Je vous annonce, madame, vos 2 meilleurs amis.
Je tremblais que vous ne fussiez parti avant mon réveil et je vous sais gré d'avoir senti le chagrin que cela m'aurait donné.
Elle nous examina l'un et l'autre, mais elle fut bientôt rassurée par la sécurité du marquis qui continua de me plaisanter. Elle en rit avec moi autant qu'il le fallait pour me consoler et sans se dégrader à mes yeux. Elle adressa à l'autre des propos tendres, à moi d'honnêtes et de décents. Badina et ne plaisanta point.
Madame, il a fini son rôle aussi bien qu'il l'avait commencé.
J'étais sûre du succès de tous ceux que l'on confierait à monsieur.
Pour moi, je suis enchanté de tout ceci. C'est un ami que nous nous sommes fait, madame. Je te redis encore notre reconnaissance.
Eh, monsieur, croyez bien que je sens tout ce que je dois à monsieur.
On annonça au mari Mathilde Lisieux. Mathilde m'avait persiflé et me renvoyait. Mon ami le Dupet se moquait de moi, je le lui rendais tout en admirant Mathilde, qui nous jouait tous, sans rien perdre de sa dignité. Après avoir joui quelques instants de cette scène, je sentis que celui de mon départ était arrivé. Je me retirai, Mathilde me suivit, feignant de vouloir me donner une commission.
Adieu, monsieur. Je vous dois bien des plaisirs, mais je vous ai payé d'un beau rêve. Allez, votre amour vous rappelle. Celle qui en est l'objet en est digne. Si je lui ai dérobé quelques transports, je vous rends à elle, plus tendre, plus délicat et plus sensible. Adieu, encore une fois. Vous êtes charmant. Ne me brouillez pas avec la comtesse.
Elle me serra la main et me quitta. Je montai dans la voiture qui m'attendait. Je cherchais bien la morale de toute cette aventure et je n'en trouvais point.
C'était Point de lendemain. Une pièce présentée par le Théâtre de l'Oreille d'après une nouvelle de Dominique Vivant-Denon, adaptée pour la radio par Marco Poli. Avec, dans le rôle de Jean-Jacques, Marco Poli, Mathilde de Lisieux, Daniela de la Rose, le marquis des Arcis, Claude Prélot, le mari de Mathilde, Pierre Bassoli. Mise en onde de Marco Poli, prise de son et montage, Pierre Bassoli.